Salut à tous et bienvenue sur Archéo Ciné, le podcast qui déterre les pépites du grand écran. Bonne année à tous. En plus, on est pile poil le 1er janvier 2020. Avec nous, il y a Blood. Comment ça va, Blood?
Salut, bah très bien, j'ai fini de dessouler.
Bon bah super, alors on va pouvoir
Salut
enregistrer.
À tous.
Et puis bah
et bonne année.
Ouais. Allez, bah on va commencer suite à la sortie d'un film dont c'est le 9e épisode, on va s'attaquer au premier épisode de la saga. À savoir, je lance le générique. Et oui, vous avez tous reconnu la musique de Star Wars, musique de
John Williams.
Et ouais, tout à fait, il fait des super musiques ce compositeur. Alors bah écoutez, Star Wars épisode 4, Un Nouvel Espoir, qui à l'origine était intitulé La Guerre des Étoiles. Donc, La Guerre des Étoiles, c'est un film américain de science-fiction de type space opera, sorti en 1977, écrit et réalisé par George Lucas. Et c'est à partir de 2000, en fait, qu'il est exploité sous le nom de Star Wars épisode 4, Un Nouvel Espoir. Hein, en VO, Star Wars épisode 4, A New Hope. Parce que c'était simplement La Guerre des Étoiles, cet épisode. Alors bah on le connaît tous, mais on va le passer en revue, hein, le petit Sino, ça se passe dans une galaxie il y a très
lointaine.
Très longtemps, et oui, et très très lointaine, et il y a une guerre civile qui fait rage entre l'Empire Galactique et l'Alliance Rebelle. C'est vrai que dans cet épisode-là, on est catapulté directement dans l'action de cette guerre. Et capturé par les troupes de choc de l'Empereur, menées par le sombre et impitoyable Dark Vador, la princesse Leia dissimule les plans de l'Étoile Noire, une station spatiale invulnérable, à son droïde R2-D2, avec pour mission de les remettre au Jedi Obi-Wan Kenobi. Accompagné de son fidèle compagnon, le droïde de protocole C-3PO, R2-D2, s'échoue sur la planète Tatooine, et termine sa quête chez le jeune Luke Skywalker. Et rêvant de devenir pilote, mais confiné aux travaux de la ferme, ce dernier se lance à la recherche de ce mystérieux Obi-Wan Kenobi, devenu ermite au cœur des montagnes désertiques de Tatooine. Bon, c'est vrai que on est projeté on sait pas le pourquoi du comment ni quoi qu'est-ce, mais après, la multitude de films et l'univers étendu qui a changé de nom depuis que ça a été racheté par Disney, blabla, on en sait un petit peu plus. Bah sinon, après, au niveau de la fiche technique, qu'est-ce qu'on a, Blood?
Alors, donc, réalisation, comme tu l'as dit, George Lucas. Scénario, George Lucas. Direction artistique, Leslie Daley et Norman Reynolds. Au décor, John Barry. Costume, John Mollo. Maquillage, Stuart Freeborn. Photographie Gilbert Taylor, effets spéciaux Industrial Light and Magic, musique John Williams, et donc un budget de 11 500 000 dollars.
Et puis le film dure 2h01 en 77 et 2h05 en 97 pour l'édition spéciale. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, au niveau du décor, John Barry, à ne pas confondre avec...
Avec le compositeur de la musique de James Bond.
Voilà, c'en est un autre. On va l'aborder tout à l'heure. Alors, comme tu l'as dit, enfin, même moi tout à l'heure, George Lucas a réalisé et fait le scénario de ce film. George Lucas, hein, c'est un réalisateur, scénariste et producteur américain. Il est né en 44, il a 75 ans. En 51 ans de carrière, il a à son actif 68 films et séries, et également plusieurs récompenses, alors notamment pour au niveau de Star Wars, hein, en 78, un Saturn Award pour Star Wars, donc l'épisode 4, pour la meilleure réalisation, et un deuxième pour le meilleur scénario. En 78 toujours, on a un prix Show West du meilleur américain, du meilleur réalisateur. Oh là, moi aussi, hein, je suis bourré.
Il y a pas que moi.
Et puis la fatigue, peut-être, je sais pas. Du meilleur réalisateur, toujours pour l'épisode 4. En 79, un prix Kinema Junpo du meilleur réalisateur étranger pour Star Wars, toujours. Hein. Et en 2003, un Razzie du pire scénario pour Star Wars épisode 2, l'attaque des clones. Qu'est-ce qu'on peut dire sinon, bah, de George Lucas, il se dessine initialement une carrière de pilote automobile. Et oui, qui l'eût cru. Et, après un terrible accident, il change d'orientation et entre à l'université de Californie du Sud, où il étudie le cinéma, ainsi que les contes, légendes et mythologies. Et, passionné par le montage documentaire, il l'impressionne en réalisant le court-métrage d'abord. C'était d'abord un court-métrage. Je veux parler de THX 1138. Il en a fait un long-métrage après, par la suite. Et il a réalisé ça en 71. Film de science-fiction avec Robert Duvall, Donald Pleasance et Maggie McOmi. Et franchement, ça promettait, ce film. Hein. Il est sacrément bien. C'est vraiment de la SF d'anticipation. C'est vraiment à voir. Donc après, bah, il continue un petit peu dans sa carrière. On est en 72 où il a réalisé la comédie American Graffiti, dans lequel on retrouve Richard Dreyfuss qu'on a aussi dans Les Dents de la Mer, et Ron Howard qu'aura plus tard réalisé Apollo 13. Il envisage une adaptation ciné de la série télé Flash Gordon. Mais bah du coup, devant les exigences de la société propriétaire des droits d'auteur, les droits lui échappent, et il décide alors de travailler sur une histoire de science-fiction de son invention, saga intergalactique mêlant quête initiatique, monde merveilleux, mythologie, des combats spatiaux, et donc qui fait un véritable hommage aux séries de son enfance composées à l'origine de 9 épisodes. Ce sera Star Wars, parce que il avait déjà dans sa tête que ce serait 9 épisodes. Donc après, il continue à mettre ça en place. En mai 73, il rédige un premier manuscrit de 14 pages intitulé The Star Wars, qui raconte les aventures du général Luke Skywalker. Il le soumet aux sociétés de production United Artists et Universal, qui le refusent. Aucun studio ne semble toutefois prêt à investir dans le projet, et seule la 20th Century Fox, encouragée par le succès d'American Graffiti et ses 5 nominations aux Oscars, accepte de mettre à la disposition du metteur en scène un solide budget de 8 millions de dollars pour commencer. Et donc, de fil en aiguille, en mai 74, Lucas met au point la première ébauche de son scénario. Il y raconte le combat des pacifiques Jedi contre les maléfiques Sith. Il introduit dans cette version les personnages du contrebandier Han Solo et de deux robots chamailleurs, donc R2-D2, C3PO. En janvier 75, il écrit une seconde ébauche de son scénario. Il l'intitule désormais « Adventures of the Starkiller ». Et Lucas il est technicien donc d'ILM, Industrial Light and Magic, qui est sa société d'effets visuels qu'il a fondée en 75 pour le film, qui est une filiale de Lucasfilm, qui aujourd'hui est propriété de la Walt Disney Company. Il travaille alors jour et nuit pour terminer un film qui ne semble pas convaincre les producteurs de la Fox, persuadés que le film sera un échec. En le 25 mai 77, La Guerre des Étoiles sort sur quelques écrans américains, et là, c'est un raz-de-marée sans précédent. Le film véritable révolution technologique devient en moins d'un an le plus gros succès de tous les temps et modifie profondément le monde du cinéma. Devançant le phénomène, George Lucas rachète les droits des suites à la Fox. Et il a bien fait, parce que sinon la Fox se serait emparée du bébé et eux qui auraient fait, et ça se trouve, ça serait pas arrivé à ce qu'on a connu plus tard avec l'épisode 5 et 6. L'épisode 5 qui est pour moi le meilleur. Hein, l'Empire contre-attaque. Et il est également, pour la petite histoire, à l'origine des scénarios de la saga des Indiana Jones, avec Harrison Ford. Hein. Les Indiana Jones qui ont été réalisés, eux, par Steven Spielberg, hein, en 81, 84, 89 et 2008. Allez, on va s'écouter un petit extrait audio, le premier, et après, je te laisserai continuer.
Dark Vador, cette félonie porte bien votre marque. Le siège impérial saura punir cet acte de piraterie. Vous avez attaqué une mission diplomatique.
Rêve de faux semblants, Altesse. Cette fois, vous n'êtes pas en mission de bienfaisance. Nous avons capté des messages émanant de plusieurs satellites rebelles. Je veux savoir où sont les plans que vos séides vous ont remis.
Je ne vois vraiment pas de quoi vous parlez. Je suis membre du Sénat impérial avec le titre de diplomate, en mission à Alderaan.
Vous avez parti lié avec les rebelles. Vous avez trahi. Qu'on l'emmène.
Et oui, donc Dark Vador qui court après ses fameux plans. Et il a réussi à capturer la princesse Leia. Et il pense que c'est elle qui a les plans, mais elle nie tout en bloc. Et donc, bah du coup, on est catapulté dans cette histoire qu'on apprend donc au fur et à mesure qui est qui et qui fait quoi, dans quel camp, etc.
Donc, bah, oui, après... même si on débarque, pardon, même si on débarque en plein dans l'histoire, il y a quand même tout de suite du suspense. On ne sait pas, oui, qui est qui. Mais tout de suite, l'intrigue est bien lancée, je trouve.
Ouais, c'est
pas
bien
comme
posé.
Certains films.
Ouais. Et puis c'est pas un truc où on débarque et puis on sait pas où il veut en venir et tout. C'est vraiment bien ficelé. Alors on va faire le petit personnel technique qui est à l'origine de ce film. Je te laisse commencer par donc Leslie Daley.
Alors Leslie Daley, qui a donc 78 ans, est un chef décorateur, un directeur artistique britannique, donc né en 1941. Il est principalement connu pour son travail sur les films donc Star Wars, donc l'épisode 4 que nous faisons en ce moment, Alien en 79 et Les Aventuriers de l'Arche Perdue en 1980. Nous avons Norman Reynolds, donc qui a 85 ans, c'est un chef décorateur britannique né à Londres. Il est principalement connu pour son travail sur la trilogie de Star Wars et Les Aventuriers de l'Arche Perdue, pour lesquels il obtient l'Oscar de la meilleure direction artistique. Nous revenons donc sur John Barry, donc comme j'ai dit tout à l'heure, ne pas confondre avec le compositeur. Donc John Barry est un chef décorateur britannique né en 1935 et décédé en 79 à 43 ans. Il a étudié l'architecture avant de se spécialiser dans la décoration. Sa première expérience au cinéma le fut comme dessinateur sur Cléopâtre en 63. Son premier film en tant que chef décorateur fut Decline and Fall of a Bird Watcher en 68. Dans les années 70, il enchaîna des films de premier plan comme Orange Mécanique, La Guerre des Étoiles, Superman et Superman 2. Grâce à ses succès au box-office, il se voit offrir la possibilité de réaliser son propre film Saturn 3, projet que son décès en 79 d'une méningite lors du tournage de L'Empire contre-attaque ne lui permettra pas d'achever.
Voilà, et Saturn 3, je t'interromps un petit peu, Saturn 3, il faudra qu'on le fasse. avec Kirk Douglas. C'est un bon film de science-fiction, d'ailleurs. Allez, vas-y, c'était juste ma petite touche.
Ok. Alors, John Molo est un costumier anglais né en 31 à Londres et mort en 2017 à l'âge de 86 ans. C'est le costumier des films Star Wars, mais également Alien de Ridley Scott avec Sigourney Weaver en 79, Outland et Event Horizon avec Laurence Fishburne et Sam Neill de Paul Anderson en 97.
Ouais, récompense, pareil, donc, il a eu... Je te coupe encore. Ouais. Je vais te couper. bah, Outland, ça, on avait fait un épisode là-dessus, hein, avec Sean Connery. Event Horizon, ouais, c'est pas mal. Laurence Fishburne, ouais, qu'on a vu dans Matrix, etc. Sam Neill qui joue aussi, je fais tout de mémoire.
Dans Jurassic Park.
Jurassic Park, ouais. Et bah voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter. Vas-y, je te laisse finir avec les récompenses qu'a obtenues John Molo.
Alors, Oscar de la meilleure création de costume en 78 pour Star Wars 4. Saturn Award, ce qui est finalement normal, un Saturn Award, comme j'avais fait pour Star Trek. Des meilleurs costumes en 78 pour Star Wars 4. Stuart Freeburn, donc, est lui né en 1914, il est mort en 2013 à 98 ans. C'est le maquilleur britannique spécialisé dans le cinéma. Donc, il est surtout connu pour avoir créé les masques et les costumes de l'Australopithèque du film 2001 l'Odyssée de l'espace en 68, un épisode que vous pouvez retrouver sur Archéociné. Et pour la trilogie originale de la Guerre des Étoiles, donc de 77 à 83, les masques et les costumes du Wookiee Chewbacca ainsi que la marionnette représentant le maître Yoda dont le visage et les yeux furent inspirés à Freeburn par les traits d'Albert Einstein. Ensuite, nous avons Gilbert Taylor, qui est parfois crédité Jill Taylor, membre de la BSC. Né en 14, il est mort en 2013 à l'âge de 99 ans. Il est un directeur de la photographie anglais. Il collabore notamment avec les réalisateurs John et Roy Boulting dans Marin du Roi en 53 avec Jeffrey Hunter, Michael Rooney et Wendy Hiller. Alfred Hitchcock dans Frenzy de 72 avec John Fitch et Barry Foster. Stanley Kubrick dans Docteur Folamour en 64 avec Peter Sellers, Francis Scott et Sterling Hayden. Alors attention, maintenant on va attaquer le gros morceau. John Williams, donc qui a 87 ans, est un compositeur, chef d'orchestre et pianiste américain né en 1932. Il est principalement connu pour ses musiques de films. On lui doit le renouveau des bandes originales symphoniques, avec ce qui reste son œuvre la plus célèbre, la musique de la saga Star Wars. Compositeur attitré de Steven Spielberg et de George Lucas, John Williams a composé au cours d'une carrière qui s'étend sur près de 60 ans un grand nombre des plus célèbres musiques de films de l'histoire d'Hollywood, notamment outre Star Wars, celle des Dents de la Mer, E.T., Indiana Jones, Jurassic Park, Superman et les trois premiers films de la saga Harry Potter. Il a également composé la musique de 4 Olympiades, NBC Nightly News et la cérémonie d'investiture du président Barack Obama et de nombreuses séries télévisées. Il a énormément contribué au succès de la saga Star Wars, dont le thème principal est l'un des morceaux les plus célèbres de l'histoire du cinéma. Il signe ainsi les partitions des 6 épisodes, apportant pour chaque opus de nouveaux morceaux et de nouvelles variations. Collaborateur de Steven Spielberg, il retrouvera George Lucas sur la saga Indiana Jones notamment. Donc, récompense donc pour Star Wars, 35e cérémonie des Golden Globes en 78, meilleure musique de film donc pour Star Wars, épisode 4, Un Nouvel Espoir. En 78, Los Angeles Film Critics Association Awards de la meilleure musique de film pour Star Wars, épisode 4, Un Nouvel Espoir. 50e cérémonie des Oscars en 78, meilleure musique de film, donc toujours le même film. 5e cérémonie des Saturn Awards 78, meilleure musique. 32e cérémonie des Saturn Awards en 2006, meilleure musique de film pour l'épisode 3, La Revanche des Sith. Ensuite, nous avons Ben Burtt, donc lui qui a 71 ans, c'est un designer, sonore, monteur, réalisateur américain, né en 1948. Parmi ses travaux les plus connus, on peut citer la création de la bande-son des épisodes de la saga Star Wars et des Indiana Jones, ainsi que Wall-E. Il créa une nouvelle approche du design sonore, notamment dans les genres de la science-fiction et de la fantasy. En effet, avant son travail dans Star Wars, les films de science-fiction utilisaient généralement des sons électroniques pour obtenir un aspect futuriste. Burt, au contraire, chercha des sons plus naturels, plus familiers. Par exemple, le bourdonnement du sabre laser fut créé à partir du bourdonnement d'un vieux projecteur mixé avec celui d'une télévision cassée. Le son des pistolets blaster fut quant à lui créé à partir du son que faisait le hauban d'un émetteur radio lorsqu'on le frappait avec un marteau. Burt utilisa également des enregistrements de sa femme alors que celle-ci avait pris froid et était clouée au lit pour le film E.T. Il est également connu pour inclure le cri Wilhelm, donc que tu avais parlé, si tu te rappelles, Bruce, dans un épisode précédent. Dans la plupart des films auxquels il collabore, on peut par exemple l'entendre lorsqu'un Stormtrooper, fait une chute dans Star Wars, épisode 4, Un Nouvel Espoir, ou bien encore dans Les Aventuriers de l'Arche Perdue, lorsqu'un nazi tombe d'un camion en marche.
Ouais, le cri Burt William, fait... On avait vu ça dans Le Train Siffleur à trois fois, j'en avais parlé.
Burt fait également des apparitions en caméo dans deux des épisodes de la saga Star Wars, dans l'épisode 6, Le Retour du Jedi, où il joue un officier impérial criant « Oh les mains !» juste avant que Han Solo ne l'envoie par-dessus une rambarde. Et dans Star Wars 1, donc La Menace Fantôme, où il peut être aperçu à l'arrière-plan à la fin du film lorsque la reine Amidala félicite Palpatine. Sa voix sert également de base pour certains effets sonores comme les bips et les sifflements du droïde R2-D2 ou bien encore certains grognements des monstres holographiques miniatures à bord du Faucon Millenium. C'est également lui qui prête sa voix au capitaine de la main invisible dans La Revanche des Sith. Alors les récompenses pour lui, Oscar du meilleur son, donc en 82 pour E.T. l'extraterrestre, en 89 pour Indiana Jones et la dernière croisade, Oscar pour une performance spéciale, donc en 77 pour Star Wars épisode 4, Un Nouvel Espoir, et en 1981, Les Aventuriers de l'Arche Perdue. Je crois que tu as un deuxième extrait à nous faire écouter, Bruce.
Ouais, on va s'écouter ça.
Attends, mon petit ami, fais voir. Tu as quelque chose de bizarre coincé sous le col. Vous étiez sur un croiseur astral et...
Obi-Wan Kenobi, vous êtes mon seul espoir.
Qu'est-ce que c'est ?
Et alors ? Monsieur t'a posé une question, réponds.
Au secours, Obi-Wan Kenobi. Vous êtes mon seul espoir. Au secours, Obi-Wan Kenobi. Vous êtes mon seul espoir.
Oh, il dit que c'est sans intérêt. Il a un décodeur grippé qui envoie des données périmées.
Et qui est-elle ? Comme elle est belle.
Que monsieur me pardonne, je n'en sais trop rien.
Au secours, Obi-Wan Kenobi.
Je crois qu'elle était à bord de notre vaisseau, monsieur. Une dame de qualité, à ce que j'ai cru comprendre. Notre commandant était très...
On peut passer la suite du message ?
Et voilà. Et là, tout part de là. C'est là que Luke va se faire embringuer dans toute l'histoire. Et en fait...
Le hasard, quand même.
Ouais, c'est ça, c'est le hasard. Et découvrir ses origines, qui il est et à quoi il est destiné. Voilà, et sinon, bah maintenant, on va attaquer avec la distribution des acteurs. Hein. Du coup, je parlais de Luke Skywalker, ça tombe bien, parce qu'on commence par lui. Il est joué par Mark Hamill. Ensuite, on a Harrison Ford qui joue Han Solo, Carrie Fisher qui joue la princesse Leia Organa, Pete Cushing qui joue le Grand Moff Tarkin, on a Alec Guinness qui joue Obi-Wan Ben Kenobi, Anthony Daniels qui lui, on le voit pas vraiment hein, puisque c'est lui qui porte le costume de ses 3 PO. On a Kenny Baker, lui non plus on le voit pas parce qu'il est à l'intérieur de R2-D2. Peter Mayhew qui lui joue le rôle de Chewbacca, David Prowse qui joue Dark Vador et James Earl Jones qui fait la voix de Dark Vador. Voilà. On va revenir plus en détail un petit peu plus tard sur le choix de ces acteurs. Sinon, pour parler un petit peu plus du film, bah, le tournage, lui, il a démarré le 22 mars 1976 en Tunisie, avec les scènes devant se dérouler sur la planète Tatooine. Les deux premières semaines de tournage sont très éprouvantes pour les acteurs et les techniciens américains et britanniques qui ne sont pas habitués aux intempéries et aux fortes chaleurs tunisiennes. Le costume des deux droïdes qui viennent à peine d'être terminés se trouve également être défectueux et inconfortable pour les acteurs. Le tournage démarre ensuite au studio d'Elstree, dans la banlieue de Londres. Quelques scènes sont également tournées au studio Shepperton, dans la région du Middlesex. Lucas trouve alors les règles de travail imposées par les syndicats britanniques très contraignantes. Elles obligent entre autres de finir ses prises avant 17h30 sans dépassement possible. Lucas est également déçu par les costumes, les décors et plusieurs autres détails. Le budget limité lui impose des compromis qui ne le satisferont pas. Il ne parvient pas non plus à faire entrer ses acteurs dans son univers. C'est un peu embêtant.
Ouais.
Le conseil d'administration de la 20th Century Fox, inquiet à cause des retards du tournage, mais également la pression sur Lucas. Pour combler le retard, le réalisateur répartit le tournage en trois équipes. Cela lui permet de terminer le travail en Angleterre le 23 juillet 1976. Les scènes restantes sont ensuite tournées aux États-Unis. Et en juin 1976, le documentaliste Mac Dodds est engagé pour filmer les coulisses des séquences tournées en Angleterre. Il filme librement à l'intérieur des studios pendant les prises et les répétitions, mais aussi en dehors, notamment les discussions des acteurs sur leur rôle, et réalise également des interviews, dont l'une des seules d'Alec Guinness sur son rôle dans Star Wars. Le travail de Dodds est utilisé à des fins publicitaires et pour alimenter les reportages de journaux télévisés. Et là, on voit que, bon, c'est vrai, quand on voit l'origine du film, le début du tournage, etc., c'était un peu mal barré. Hein. La 20s, ils étaient à deux doigts de dire, bon, on arrête, quoi. Donc ensuite, bah, Mark Hamill, lui, il est né en 51, il a 68 ans, il a 54 ans de carrière et 75 films et séries. Et c'est grâce à son ami Robert Englund qu'il passe une audition pour jouer Luke Skywalker. Et c'est son tout premier film. Et donc, en 77, il est même victime d'un grave accident de voiture qui lui a brisé le nez, la mâchoire. Et 7 heures d'opération chirurgicale seront nécessaires pour le remettre sur pied. Et donc, on va le retrouver aussi dans les Star Wars des épisodes 4 à 8. Et il a doublé aussi dans de nombreuses séries animées, telles que Batman, où il peut faire la voix du Joker. Au niveau des récompenses, en 78, on a un Show West Award de la star masculine de demain pour l'épisode 4. En 81, on a un Saturn Awards pour le meilleur acteur pour l'épisode 5. En 84, on a un Saturn Awards du meilleur acteur pour l'épisode 6. Et en 2018, on a un Saturn Awards du meilleur acteur pour l'épisode 8. Et il y a eu un petit incident durant le tournage, hein, parce que Mark Hamill, il retint si longtemps son souffle durant le tournage de la scène du dépotoir, hein, où ils se débattirent, Luke, Han, Léa, Chewbacca, au cours de leur évasion dans la prison de l'Empire, là, qu'un vaisseau sanguin éclata sur son visage. Et pour ne pas retarder le tournage, tous les plans où il apparaît par la suite ne représentent qu'un seul côté de son visage. Un procédé utilisé à une autre reprise lors de tournage, lorsque le comédien fut victime d'un accident de voiture qui laissa un côté de son visage très abîmé. Mais ça, on ne s'en rend pas tellement compte, mais c'est vrai que quand on le sait, on peut y faire attention. Bon, ensuite, après, on a Harrison Ford. Hein, lui, c'est un acteur américain, né en 1942, il a 77 ans. Sa collaboration avec George Lucas, qui le premier lui a donné l'occasion de s'affirmer en tant qu'acteur avec American Graffiti en 73, lui permet d'accéder au rang de vedette internationale avec les rôles de Han Solo et Indiana Jones aussi. Hein. C'est ces deux sagas-là qui lui ont donné le succès qu'on lui connaît. On a même aussi Ridley Scott un peu plus tard hein, qui lui confie le rôle de Rick Deckard dans le film de science-fiction Blade Runner. Ça aussi, il faut le voir.
Et ouais.
Et lui, hein, il a eu 50 ans de carrière sur lequel il a participé à 71 films hein, où il a eu de nombreuses récompenses. Hein, dont un Saturn Award en 82 pour le meilleur acteur des aventuriers de l'âge perdu et en 2016 un Saturn Award pour le meilleur acteur pour Star Wars l'épisode 7 et au moment où la guerre des étoiles a été tournée, donc Star Wars c'est son 9e film et en fait pour le rôle de Han Solo des gueules du cinéma en fait furent longtemps envisagées. Et Kurt Russell, Al Pacino, Burt Reynolds, Nick Nolte, Christopher Walken et Richard Dreyfuss avaient un temps été considérés pour incarner le mercenaire. Mais un personnage qui sera finalement donc confié à Harrison Ford, c'est lui qui a décroché le rôle. Et on va s'écouter un autre petit extrait et puis je continuerai après avec Carrie Fisher.
Donc il reste ici à tout jamais. Presque tous ses amis sont partis. Et l'académie est si importante pour lui.
Il partira là-bas l'année prochaine. Je te le promets.
Oui. Luke est tout sauf un fermier, Owen. Il ressemble trop à son père, ce gamin.
C'est bien ce qui me fait peur.
Et oui, ça le démange, Luke, de vouloir partir. Il est intrigué par le message et puis... qu'est-ce qui peut se passer ailleurs? Et c'est vrai qu'il a même envie d'être pilote. Il avait confié ça à un moment donné où, dans le film, alors qu'il n'a même pas commencé sa quête, entre guillemets. Mais il était prédestiné à tout ça. Sinon, j'en étais où? Donc, Carrie Fisher, hein, elle est née en 56 et malheureusement, elle nous a quittés en 2016 à 60 ans. C'est une actrice, romancière et scénariste américaine. C'est la fille de l'actrice Debbie Reynolds et du chanteur Eddie Fisher. Et elle fait ses premiers pas d'actrice au théâtre, en fait, aux côtés de sa mère. Et en 75, elle décroche son premier rôle sur grand écran dans la comédie romantique Shampoo d'Al Ashby, écrite et interprétée par Warren Beatty. Et 2 ans plus tard, elle crève littéralement l'écran avec tous ses partenaires donc de Star Wars, en y incarnant la princesse Leia Organa. Et contre coup du succès ou volonté de s'éloigner du milieu, Carrie Fisher se fait plus rare sur les écrans dès la fin de la trilogie. Et elle fera tout de même 70 films et en 41 ans de carrière. Star Wars donc est son 2e film. Et pour la petite histoire du casting, en fait, c'est Jodie Foster avait été un temps pressentie pour interpréter la princesse Léa, et elle sera finalement évincée donc au profit de Carrie Fisher. Et deuxième petite anecdote toujours de casting, Sissy Spacek hein, aurait dû incarner la princesse, et Carrie Fisher lui a été préférée pour le rôle principal de Carrie au bal du diable. Mais refusant d'apparaître dénudée, la comédienne optera pour la guerre des étoiles, et inversant donc avec les rôles Sissy Spacek qui deviendra l'inoubliable héroïne du film de Brian De Palma. Pourquoi en fait? Parce que Carrie s'était rendue à un double casting, De Palma et Lucas ayant organisé conjointement leurs auditions pour leur film Carrie au bal du diable, et Star Wars. Donc voilà. En fait, les castings, ça s'est inversé. Ce qui plaisait à Alain, voilà. Ça... Et donc, c'est très bien tombé comme ça. Ensuite, Bah, on continue, on a Peter Cushing. Hein. Peter Cushing, c'est un acteur britannique né en 1913 et nous a quitté à l'âge de 81 ans, en 94. Il a commencé sa carrière en 39. On peut le retrouver dans Top Secret, hein, une comédie parodique de David et Jerry Zucker, ainsi que Jim Abraham en 84 avec Val Kilmer, dans Les Maîtresses de Dracula en 60 par Terence Fisher, Le Cauchemar de Dracula en 58 de Terence Fisher aux côtés de Christopher Lee, Le Chien des Baskerville en 59 de Terence Fisher, hein, toujours. Tous ces films, hein, c'est les films qu'on appelle de la Hammer. Voilà, il est en fait connu pour avoir incarné à l'écran des personnages allant d'Abraham Van Helsing à Sherlock Holmes, en passant par Victor Frankenstein et Doctor Who. Hein. C'est les fameux films des studios de la Hammer, hein, studio britannique. Petite anecdote au niveau de Star Wars, hein, il souffrait terriblement des pieds, ses bottes étaient trop étroites lors du tournage, et en fait, il pouvait pas les supporter, de les porter, parce que c'était des bottes rigides, et les bottes hein, que porte son personnage, hein, le grand Moff Tarkin, commandant de l'Étoile Noire. Et il porta donc des charentaises dans la majorité de ses scènes qui furent filmées de façon rapprochée sans montrer ses pieds. Voilà. Et donc, en 77, comme je viens de le dire, hein, il est le grand Moff Tarkin, qui est l'ambitieux et cruel gouverneur stellaire supervisant la station spatiale Étoile Noire. Et il est alors avec Alec Guinness, le seul acteur connu du film. Parce que c'est vrai que c'est tous des nouveaux acteurs, dont on a vu tout à l'heure, certains, enfin c'est leur tout premier film, voire leur deuxième.
Et alors que les eux deux, ça fait déjà plusieurs années qu'ils tournent.
Carrément. Et lui, bah, son personnage sera repris en 2011 dans la série animée Star Wars The Clone Wars, et en 2014 dans la série animée Star Wars Rebels. Et alors là, magie du cinéma, hein. En 2016, alors qu'il est décédé, hein, il réapparaît à l'écran dans Rogue One, après donc 22 ans après sa mort, grâce à une technique novatrice de capture de mouvement qui permet de greffer une représentation 3D de son image sur les performances d'un autre comédien, Guy Henry. Voilà, ça a permis de le faire ressusciter, entre guillemets. Ensuite, bah, l'autre acteur connu de cet épisode 4, c'était Alec Guinness. Alec Guinness, lui, il est né en 1914, il est mort en 2000, à l'âge de 86 ans. C'est également un acteur britannique. Et avec ses 49 ans de carrière, qu'il débute en 1934, 50 films à son actif, son interprétation du colonel Nicholson dans le pont de la rivière Kwai en 57, ça aussi, c'est un film à voir. Ce film est récompensé par un Oscar et un Golden Globe. Et le film à voir dans lequel il joue aussi, c'est Tueur de Dames.
Très marrant. Et il y a aussi Noblesse Oblige.
Ouais.
Mais Tueur de Dames, ouais, là, voilà, c'est...
Ouais. Oh. Bah je regarderai
ça. Pour ceux qui aiment cet humour, hein, bien sûr.
Humour britannique, non, c'est ça?
Ouais, voilà. Ouais. Et puis en plus, c'est comme un assez vieux film, vu qu'il est en noir et blanc.
Ah oui.
Donc il y a Peter Sellers aussi.
D'accord. Bon bah je regarderai ça, je le connaissais pas. Mais ensuite.
Il a été refait avec Tom Hanks, mais par contre j'ai pas vu le remake. Hein.
Ah oui. Ouais. Bah écoute, je regarderai ça de plus près. Et ensuite, bah on continue, on a Anthony Daniels, hein, c'est un acteur britannique, il est né en 46, il a 73 ans. Donc pour Star Wars, bah Anthony Daniels s'est approché par George Lucas pour se glisser dans le costume doré du robot C-3PO. Deux raisons à cela, sa silhouette longiligne et ses talents de mime. Loin de se contenter de n'être que le corps du droïde, le comédien parvient à convaincre le cinéaste, d'abord réticent, de lui laisser enregistrer la voix de C-3PO, à qui il donne son timbre caractéristique. Et Anthony Daniels est avec son partenaire droïde Kenny Bakers le seul acteur à apparaître dans les 6 épisodes de la saga. Mais il a également 26 films à son actif en 40 ans de carrière, qu'il commença en 76. Star Wars est son 2e film. Allez, on va s'écouter un autre petit extrait.
Il y a un appareil qui approche.
Il sait peut-être ce qui s'est passé.
Un chasseur impérial, on dirait.
Il nous a suivis.
Non, son rayon d'action est bien trop court.
Il n'y a aucune base dans le coin, d'où est-ce qu'il peut venir?
En tout cas, il repart drôlement vite. S'il nous a identifiés, ça va barder.
On va s'occuper de lui. Chico, brouille ses transmissions.
Il vaut mieux le laisser filer, il est hors de portée maintenant.
Pas pour longtemps.
Je suis sûr qu'un engin de cette taille ne se risquerait pas tout seul dans l'espace.
Il a pu s'égarer, il faisait peut-être partie d'un convoi, il s'est perdu.
Eh bien, je lui laisserai pas le temps d'aller prévenir ses petits copains.
Regardez, il se dirige vers cette petite lune là-bas.
Je le rattraperai avant qu'il se cache derrière, il est presque à portée.
Non, ce n'est pas une lune. C'est une base sidérale.
C'est impossible, c'est bien trop grand.
Aïe, aïe, aïe. Ils vont être dans le pétrin.
Suspense.
Oui, comme si on n'avait jamais vu le film, c'est.
Ouais, ouais.
Donc, et ben après C3PO, hein, on continue avec R2D2, interprété par Kenny Baker, Kenny George Baker. Il est né en 34, il est mort en 2016 à l'âge de 82 ans. Et limité dans le choix de ses rôles par sa petite taille, il mesurait 1m21. Et il s'est illustré donc principalement dans des films qui exploitent sa particularité physique. Donc on peut le retrouver dans Elephant Man, où il incarne le nain de la troupe de cirque, ou dans Flash Gordon. Et en 76, il se voit proposer le rôle de R2-D2. Il a quand même 26 films en 77 ans de carrière, qu'il a commencé en 1960 avec Le Cirque des Horreurs. Et puis, son dernier film fut Star Wars, l'épisode 7. On retrouve aussi Peter Williams Mayhew. C'est un acteur britanno-américain. Il est né en 44, il est mort en 2019. Et oui, à l'âge de 75 ans. Et au début, il était employé dans un hôpital londonien. Et il est approché en 76 pour un rôle dans Sinbad et l'œil du tigre, par un producteur passablement impressionné par sa taille. Il fait 2m21. Et la même année, on lui propose un autre rôle, celui d'une créature poilue, vedette d'un film de science-fiction intitulé La Guerre des Étoiles. Et il rencontre George Lucas pour des essais. Et ils vont durer 10 secondes. Il est engagé sur le champ pour endosser le costume du Wookiee Chewbacca.
Tu m'étonnes.
Et il a quand même fait aussi, il en a fait un petit peu en 60 ans de carrière, il a fait 13 films. Après, on retrouve Dark Vador, interprété par David Charles Prowse, qui est à la base un bodybuilder, acteur britannique, né en 35, il a 84 ans. Il a quand même fait 15 films en 48 ans de carrière. Il a commencé en 67, ça s'est fini à peu près en 2010. Il a été, entre autres, Julian, le serviteur de Mr. Alexer, dans Orange Mécanique, de Stanley Kubrick, avant d'interpréter donc le rôle de Dark Vador. Sa grande taille d'1m96 fit qu'il eut le choix d'interpréter le personnage de Chewbacca, ou de Dark Vador. Et en fait, ne voulant pas apparaître masqué, il refusa le rôle de Chewbacca pour celui du célèbre méchant, justifiant sa décision en expliquant que tout le monde se souvient du méchant pour découvrir qu'il devait également porter un masque. C'est un peu ballot.
Et donc forcément, c'est avant que Peter Mayhew rencontre George Lucas.
Ouais, certainement. Et puis lui qui voulait apparaître à visage découvert, dans les deux cas, il était masqué. Et autre mauvaise surprise, il apprend à la fin du tournage que sa voix sera remplacée par celle de James Earl Jones. Selon Lucas, la voix du comédien ne collait pas du tout avec le personnage. Et enfin, cerise sur le gâteau, hein, il est remplacé par Sebastian Shaw à la fin du Retour du Jedi, qui sera le visage humain de Dark Vador, hein, à la fin du film de l'épisode 6, quand Luke lui ôte son casque. Donc, il l'avait tellement mauvaise qu'à la fin, il a incendié dans des interviews George Lucas. Ça lui a valu qu'il est interdit de Comic-Con maintenant. On a aussi, pour finir, James Earl Jones. Hein. C'est un acteur américain, il est né en 31, il a 88 ans. Il est le fils de l'acteur Robert Earl Jones. Et il obtient son premier rôle au cinéma en 64 dans Docteur Folamour. Il est notamment connu pour son rôle de Tulsa Doom dans Conan le Barbare. Et en 77, il est choisi par George Lucas pour prêter sa voix à Dark Vador. Hein, car Lucas, il avait dans un premier temps pensé à Orson Welles. Et donc il remplace, comme je venais de dire, hein, la voix de David Prowse, dont l'accent West Country trahit le personnage.
Ah ouais, ouais, c'est d'accord.
Donc ça, c'est George Lucas hein, qui... C'est lui le réalisateur, c'est lui qui choisit, mais...
Voilà. Exactement, ouais.
Et puis, tout à l'heure, on a parlé d'ILM. Allez, je fais une petite parenthèse là-dessus. En 75, hein, pendant la préparation de Star Wars, George Lucas essaie de confier la réalisation des effets spéciaux optiques du film à Douglas Trumbull, le responsable des effets spéciaux hein, de 2001, l'Odyssée de l'espace, qui a même réalisé Silent Running. Et celui-ci décline l'offre de Lucas, mais lui suggère d'embaucher son assistant à dénommer John Dykstra. Et Dykstra régnait alors une équipe d'étudiants, d'artistes et d'ingénieurs qui l'acquittent de la tâche. Lucas décide alors de créer une structure indépendante dans Lucasfilm qu'il baptise Industrial Light and Magic. Voilà ce qu'est ILM. Et sinon, je te laisse continuer pour la suite. Sinon, le hasard fait bien les choses. Hein. Certains mots ou noms retenus pour la guerre des étoiles sont souvent nés par hasard et sont restés ancrés dans l'esprit de George Lucas. Hein. Ainsi, le mot Wookie, l'espèce à laquelle appartient Chewbacca, est à l'origine une onomatopée qu'a laissé échapper un comédien après avoir commis une erreur lors de l'enregistrement de voix en post-production de THX 1138. Quant au célèbre R2-D2, c'est un raccourci utilisé par le monteur d'American Graffiti pour décrire un segment du film Reel 2, Dialogue 2, hein, donc Bobine 2, Dialogue 2. Ouais, donc Blood, t'as peut-être des trucs à nous dire sur la version française qui, entre parenthèses, bon, ça me fait un petit peu sourire. Heureusement qu'ils se sont rattrapés après l'épisode 5, l'Empire contre-attaque. Allez, vas-y, je te laisse raconter les petits trucs typiquement franco-français de l'époque. Alors, des années 70, parce que maintenant, ils ont un peu arrêté avec ça. Heureusement, d'ailleurs.
Alors, donc, la version française du film est assurée par la société nouvelle de doublage, mais la Fox impose Eric Kahan pour la direction artistique. Pour réaliser cette adaptation, il décide de changer plusieurs noms propres. Parmi les personnages, plusieurs sont touchés par ce changement de nom. Le droïde R2-D2 voit ses syllabes inversées et devient D2-R2. Chewbacca subit quant à lui une traduction littéraire, son nom en anglais étant l'abréviation de Chewing Tobacco, qui veut dire tabac à mâcher. Il devient alors en français Chic Tabac, souvent abrégé en Chico. D'ailleurs, il le dit quelquefois Le personnage de Tarkin devient Tarkan, le droïde C3PO devient Z6PO et le grand méchant Darth Vader devint Dark Vador. Han Solo change en Yann Solo car le H met en français aurait pu faire croire qu'il se prénomme Han. Pour la plupart, ces changements ne concernent que ce premier épisode. En effet, dans les épisodes 5 et 6, seuls Z6PO et Yann Solo et Dark Vador conservent leur nom traduit en français. Dans les autres films de la saga, le nom de Dark Vador est le seul changement qui était conservé pour la version française. D'autres éléments changent de nom, comme le vaisseau Millennium Falcon qui devient le Millennium Condor, la Death Star qui devient l'Étoile Noire, la planète Alderaan qui devient Aldorande, et les Clone Wars qui deviennent la Guerre Noire.
Ouais, écoute, et ouais, voilà, c'est bien. Donc la version française, hein, comme on peut le voir, toujours adaptée un peu avec des choix étranges. Et justement, allez, on va se passer un petit extrait de ces choix parce que je les trouve trop ridicules.
Trop. Ah.
Les deux R2, où es-tu, mon vieux ?
Chic ta balle, hein, et le copilote d'un appareil qui pourrait nous convenir.
Yann Solo. Je suis le capitaine du Millennium Condor. Chico dit que vous demandez à louer un appareil pour aller à Alderaan, c'est ça ?
Voilà, donc j'ai fait un petit condensé de toutes les... Mais heureusement qu'ils ont changé aussi. Ouais, tu disais, on aurait pu le confondre avec Anne, mais le prénom féminin, A2NE. Oui, ah ouais. Tu voulais dire ?
Surtout pour Chico, je trouve que ça fait pas terrible. Hein.
Bah, Chewie, c'est carrément mieux, ouais.
Ah ouais.
Et sinon, bah du coup, au niveau du casting hein, pour la saga, George Lucas a choisi de mêler, comme je le disais tout à l'heure, hein, acteurs inconnus pour les premiers rôles et comédiens confirmés pour les personnages secondaires. Mark Hamill, Carrie Fisher, Harrison Ford, ainsi que de jeunes comédiens sans grandes expériences, opposé à de véritables monstres du 7e art tels que Peter Cushing ou Alec Guinness. Ça, je l'avais dit un petit peu tout à l'heure. Il y a un petit clin d'œil aussi à THX. THX 1138, hein, puisque George Lucas aime parsemer ses œuvres de références personnelles ou de petits clins d'œil. Et justement, dans La Guerre des Étoiles, guetter la réplique où Luke et Han, déguisés en Stormtrooper, indiquent le numéro de cellule dans laquelle est transféré Chewbacca. 1138, clin d'œil au premier film de George Lucas, THX 1138. Et donc, des studios de Pinewoods à la Tunisie, hein, j'en avais dit vite fait tout à l'heure que le tournage de La Guerre des Étoiles dura 5 mois, donc... de mars à juillet 76, principalement filmé en Angleterre, le film passera également par la Californie, le Guatemala, la Turquie et la Tunisie, dont le village de Tatooine inspirera George Lucas, le nom de la planète Tatooine. Et un canyon désertique tunisien décor du sauvetage de Luke, qui est attaqué hein, par les Hommes des Sables, et Obi-Wan Kenobi vient le sauver, fut réutilisé 3 ans plus tard, par George Lucas, hein, toujours, dans Les Aventuriers de l'Arche Perdue, lors de la scène où Indiana Jones menace de tirer une roquette sur l'Arche d'Alliance. Allez, on va s'écouter un cinquième extrait.
Vous attendez, Obi-Wan. Enfin, nous nous retrouvons. La boucle est maintenant bouclée. Quand je vous ai quitté, j'étais votre disciple. Aujourd'hui, je suis le maître.
Le maître des forces du mal, Vador.
Et oui, on ne comprenait pas pourquoi à l'époque, et on a compris par la suite, parce que tout s'est mis en place. Mais... Alors sinon, au niveau des récompenses, parce qu'il y en a un paquet... Allez, je te laisse cette partie, vas-y, attaque.
Donc, ça fait un petit récapitulatif en même temps. Donc, en 77, donc pour Los Angeles Film Critics Association Awards, donc le prix du meilleur film, et meilleure musique, donc pour John Williams. En 78, donc en Oscar, il y a eu meilleure direction artistique pour John Barry, Roger Christian, Leslie Daley et Norman Reynolds. Meilleur costume pour John Mollo. Meilleur son pour Derek Ball, Don McDougall, Bob Mittler et Ray West. Meilleur montage pour Richard Chu, Paul Hirsch et Marcia Lucas. Je sais pas si je vais tous les citer, je vais peut-être dire seulement le prix. Meilleur effet visuel. Meilleure musique originale. Oscar pour une performance spéciale. Ensuite, un Golden Globes, meilleure musique de film. Saturn Awards, meilleur film de science-fiction. Meilleur acteur dans un second rôle pour Alec Guinness. Meilleure réalisation. Meilleur scénario. Meilleure musique. Meilleur costume. Meilleur maquillage. Meilleur effets spéciaux. Un Grammy Awards de meilleure musique, donc album de musique de film pour John Williams. Un prix Hugo pour meilleur film dramatique, un People's Choice Awards pour film préféré, un Science Fiction and Fantasy Writers of America, donc prix spécial, en 1979, un BAFTA meilleure musique de film, meilleur son, un Evening Standard British Film Awards meilleur film, meilleur acteur.
Bon allez, il y a un petit problème technique avec le micro du podcast. Je sais pas pourquoi je suis repassé avec le micro de mon casque. C'est pour ça que c'est pas la même qualité. Donc du coup, on en était où? Oui, pour aller plus loin après et pour finir avec la saga Star Wars. Hein, la saga Star Wars, au cinéma, on peut la retrouver avec la trilogie originale, donc de l'épisode 4 en 77, l'épisode 5 en 80 et l'épisode 6 en 83. On a la prélogie avec l'épisode 1 en 99, l'épisode 2 en 2002 et l'épisode 3 en 2005. Et on a la troisième trilogie avec l'épisode 7 en 2015, l'épisode 8 en 17 et l'épisode 9 en 19. On a aussi des films dérivés, hein. On a Star Wars The Clone Wars en 2008, on a Rogue One en 2016 et Solo en 18. On retrouve aussi Star Wars à la télé. Hein, avec des séries, de 2003 à 2005, on a Star Wars Clone Wars, une série animée, qui se place entre l'épisode 2 et l'épisode 3, de 2008 à 2014 et 2020, on a également une autre série animée, Star Wars The Clone Wars, où ça se déroule donc entre l'épisode 2 et 3, hein. Parce que la première série dont j'ai parlé, l'histoire n'est plus considérée comme officielle depuis la série, la sortie de Clone Wars. On a de 14 à 18 la série animée Star Wars Rebels, qui se passe, elle, 14 ans après l'épisode 3. On a de 17-18, on a Star Wars Force du Destin, une petite mini-série d'animé. À partir de 2018, et toujours en cours, on a Star Wars Résistance, qui survient entre les épisodes 6 et 7. Et à partir de 19 et toujours en cours actuellement, on a The Mandalorian qui est une série en prise de vue réelle et dont l'histoire se déroule entre les épisodes 6 et 7. Et puis aussi tous les romans des univers officiels et univers légendes, les BD, les jeux vidéo, les jeux de plateau, enfin ça en fait un paquet quoi. Voilà. Allez, on va s'écouter un dernier extrait, et puis après on dira comment on a aimé le film, etc.
Luke, fais appel à la force. Suis ton instinct, Luke.
C'est à croire qu'il est protégé par la force.
Luke, aie confiance en moi.
Ah oui, et je voulais aussi rebondir là-dessus, parce que là, on entend Vador. Je voulais qu'on entende. Je voulais passer un extrait de Vador, justement, avec la différence des voix VF-VO.
Votre jouet technologique ne m'impressionne pas. Même si notre armement est assez puissant pour détruire une planète, il est bien peu de choses en comparaison de la force.
Don't be too proud of this technological terror you've constructed. The ability to destroy a planet is insignificant next to the power of the Force.
Ah, c'est pas pareil, hein.
Ah, c'est pas tout à fait pareil, hein.
Non, bah après, bah vas-y, je te laisse commencer. Toi, Star Wars, c'est quoi pour toi?
Oula, comment dire ça, tu me prends dépourvu.
Ah, mais comment t'as aimé le film et tout?
Oui, bah oui, bah le film, ça, j'adore ça depuis que je suis tout petit, hein, mais du fait que ça se passe dans l'espace, enfin, il y a plein de robots, c'est un univers comme Star Trek, quoi, t'adores ça, mais finalement, t'adores ça, mais t'as du mal à expliquer pourquoi, mais je vois ce film-là, tout de suite, ça m'a plu, quoi, quand j'ai vu ça la première fois.
Ouais.
Pour expliquer.
Non, mais c'est un tout. Il y a, ça, il y a l'histoire, la musique.
Ah bah oui, bah la musique en plus de John Williams, ça, c'est sûr que ça fait un plus pour le film, mais ça n'empêche pas que l'histoire puis tous les personnages sont super bien réalisés, quoi.
Ah, c'est clair. Mais et en plus de ça, il avait commencé par l'épisode 4. Parce qu'en fait, commencer par l'épisode 1,
ça aurait été un peu mou.
Ouais, ça aurait été un peu mou, tandis que là, c'est vrai que commencer par le 4, on est directement plongé au cœur de l'action.
Je sais pas si je peux le dire, mais par exemple, si ça aurait fait un peu comme pour Game of Thrones, par exemple, quand j'ai regardé le premier épisode, bon ben, j'ai trouvé que c'était un peu long à démarrer.
Ouais, parce que c'est long à se mettre en place, quoi.
Oui, voilà. Alors que là, en commençant tout de suite par l'épisode 4, oui, on est tout de suite dans l'action. Au moins, ça a tout de suite plu au public.
Ouais, donc ah oui, non, mais après c'est, et puis il y a pas que l'univers ciné, quoi. Après, c'est, ça s'est étendu partout, quoi, avec les romans, les BD, etc., etc. Ouais, c'est. Et ça a changé aussi beaucoup de choses au niveau du cinéma, au niveau des références, etc., machin. Ouais, non, c'est tous les personnages.
S'il n'y avait pas eu ce film là, oui, il y aurait plein d'autres films ou même de séries qui n'existeraient pas, je pense.
Ouais,
il y avait quand même Star Trek, mais bon,
oui,
ça a ajouté un truc quand même, un univers.
Mais Star Trek, c'est arrivé à la série. Ouais, la série,
elle, oui, bah oui, il y avait avant. Déjà eu la série.
Ouais. Non, c'est vrai.
Puis comme on avait justement avec l'épisode de Star Trek, ils avaient fait le film de Star Trek suite à la sortie de ce film-là, de Star Wars 4.
Ouais.
Alors moi, ce qui m'a carrément plu aussi dans le film, c'est que, en fait, Luke, il part de rien au début. À la base, c'est un simple fermier. Et puis, le fait qu'il tombe sur ce message-là, de fil en aiguille, il fait des rencontres. Et puis, il voit qu'il est destiné à quelque chose. Et il se trouve entouré après d'amis. Il se fait des amis. Et il devient le leader de la... Ah mince, ça y est, j'ai un trou de mémoire. Il devient leader de la rébellion. Et après, il fait son rêve, quoi. Il devient pilote, etc. Et puis, à la fin, il est médaillé. Quoi de mieux comme histoire? Et puis après, après, il y a toutes les suites. Ça, c'est tout un univers génial. Enfin, franchement, moi, perso, avec Star Wars, avec Star Trek, c'est mes vraiment films préférés, mes sagas, mes univers préférés. Voilà, j'ai rien d'autre à rajouter, à part dire que c'est sublime, magnifique, tellement il y a de choses à dire que je pourrais... Enfin, je sais même pas quoi dire, quoi.
Bah voilà, bah écoute, si on n'a rien à rajouter, on va se quitter là-dessus. Comme d'habitude, bah, vous pouvez nous retrouver sur le blog et Twitter, les plateformes de téléchargement, de podcasts, Spotify, Deezer, etc. Et puis, bah, écoute, on va se dire au prochain épisode d'Archéociné.
Exact. Ouais. Voilà. Je ne sais pas encore ce que ce sera, mais...
Je sais pas, on trouvera.
On le fera.
Un vieux film. Enfin, un vieux film. Un truc qui a plus de 20 ans, quoi.
Oui, voilà. Pas un film muet non plus.
Non. Allez, c'était Bruce au micro. À bientôt.
Et Blood. Salut à tous et bon film.
Allez, ciao.